Ein Witte vom Dach beim Maurice Molitor als Loden Rektor von der Uni Lützebusch.
Stéphane Pallage, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que le retour à la normale a bien eu lieu, comme prévu ce lundi à l'Université de Luxembourg?
Alors, ce n'est pas encore complètement un retour à la normale, hein, mais c'est un pas vers la normalité. Nous avons maintenant des auditoires que nous utilisons à leur pleine capacité. Jusqu'ici, nous étions en présentiel, mais en présentiel hybride. Mm-hmm. Ça veut dire que des petits groupes venaient sur le campus pour des activités comme des cours ou des travaux pratiques. Aujourd'hui, on peut maintenant réutiliser l'ensemble de nos salles de cours à leur pleine capacité, avec toutefois des règles sanitaires bien strictes.
Hein. Pendant toute la pandémie, l'université a privilégié une attitude beaucoup plus prudente que celle adoptée par les écoles fondamentales et secondaires. Pourquoi ?
Nous avons une population très diverse, hein, très diversifiée. Nous avons des étudiants qui viennent de partout dans le monde et par la différence des écoles secondaires, par exemple, un étudiant va suivre des cours avec beaucoup de groupes différents. Hein, donc, il ne va pas rester toujours avec les mêmes étudiants dans la même salle. Hein, il va changer de salle fréquemment et il va voir beaucoup de monde et beaucoup de professeurs différents. Donc, on a toujours privilégié les activités en petits groupes, mais nous souhaitions redonner à nos étudiants la pleine capacité d'une vie de campus. Mmh. Et ça, c'est ce qui est nouveau. Ça prenait, par contre, un protocole sanitaire particulier qui devait être approuvé par la santé publique.
Pourtant, l'université a des locaux, je parle des auditoires et des salles qui sont probablement plus spacieux quand même que les salles de classe dans les écoles primaires ou dans les lycées.
Oui, mais nous avons des auditoires qui peuvent contenir 125 personnes, par exemple, ou 150. Si nous voulions une distanciation sociale de 2 mètres et le port du masque, c'était impossible d'utiliser ces salles à pleine capacité. Donc nos groupes devaient forcément être des petits groupes.
Mmh. Donc depuis lundi, c'est le retour plus ou moins à la normale, au moment précis où la circulation du virus repart à la hausse. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être contraint de revenir sur votre décision dans un avenir pas trop lointain ?
Ah, écoutez, on suit ça au jour le jour. Hein. Bien sûr, on parle d'une quatrième vague. Si elle se profile à l'université, il est évident qu'on prendra des mesures sanitaires de façon très très agile. Nous l'avons fait depuis le début de la crise. Hein. Nous avons été capables d'ajuster nos mesures aux circonstances. Et la crise, je vous le dirai, a plutôt été bien gérée. Nous avons eu très peu de cas qui étaient reliés les uns aux autres. Et nous avions des protocoles sanitaires qui étaient appliqués très très bien par la communauté.
Mais concrètement, ça se passe comment depuis lundi ? Est-ce que tous les cours ont à nouveau lieu en présentiel ?
Beaucoup, une grande majorité des cours. Bien sûr, certains cours avaient été planifiés de façon asynchrone, avec des rencontres occasionnelles avec le professeur. On ne va pas changer complètement le format des cours qui avaient été planifiés par ces professeurs. Mais pour la majorité des cours qui se donnaient en format hybride, ils sont aujourd'hui en présentiel.
Ça reste donc le choix du professeur.
Bon, ça reste bien sûr toujours le choix du professeur, mais les professeurs sont très heureux de retrouver leurs étudiants, vous savez.
Ouais. Mais bon, pourtant, il ne faut pas se leurrer. Pour certains enseignants qui ne vivent pas nécessairement à Luxembourg, le fait de pouvoir donner leurs cours par Internet était fort confortable. Donc comment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus ?
Vous savez, les professeurs valorisent énormément le contact avec les étudiants. Une université, c'est un lieu d'échange humain très très important, et la transmission du savoir, elle se fait par cet échange. Donc j'ai très peu de soucis.
Vous n'avez aucune crainte qu'il y ait des abus ?
J'ai une pleine confiance en mes professeurs.
Donc, WebEx, qui est l'application de visioconférence que vous utilisez à l'université, a permis de garantir une certaine continuité de l'enseignement pendant la pandémie. Est-ce que cette solution, qui était à la base une solution de secours, va perdurer ? Est-ce qu'elle fera partie du nouveau quotidien de la vie universitaire, à votre avis ?
Alors, je vous dirais d'abord que ce n'était pas une certaine continuité, mais une continuité. Mm-hmm. Nous avons eu zéro journée de pause de notre enseignement. Nos missions ont été honorées sans aucun arrêt pendant toute la pandémie. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui vont être... On a appris énormément de cette pandémie. On a appris qu'on était très agile, hein, qu'on était capable de s'ajuster rapidement, d'ajuster notre pédagogie. Alors, le meilleur va être conservé, mais pas tout, bien sûr. Mmh. C'est une des choses qui va perdurer, c'est notre habileté à gérer des crises. Nous avons mis en place des protocoles. Nous avons des comités de crise extrêmement agiles. Je pense que ça, c'est excellent pour l'avenir de l'université.
Et il y aura des cours en ligne aussi à l'avenir. Vous pensez que ça deviendra une normalité?
100% en ligne, il y a peu de gens qui le souhaitent, hein. Mais utiliser le média que nous procure WebEx à l'occasion, c'est quelque chose de très très précieux, effectivement.
Mais ça change l'enseignement, non ?
L'enseignement évolue, l'apprentissage de nos étudiants évolue aussi. L'apprentissage en groupe est quelque chose qui est très très important. Mmh. Mais je vous dirais que nous sommes une université qui privilégie l'enseignement personnalisé, et donc le côté présentiel sera toujours extrêmement important.
Est-ce que la pandémie s'est fait sentir au niveau des inscriptions ?
Non, non, en fait, nous n'avons pas subi de baisse d'inscription. Nous avons peut-être eu moins de candidatures provenant des pays tiers, parce qu'il était extrêmement difficile de voyager, mais ça n'a pas du tout affecté le nombre d'inscrits à l'université.
Donc le total est plus ou moins le même ?
Exact.
Ce qui veut dire que probablement les Luxembourgeois étaient plus nombreux à s'inscrire. Au moins, eux, ils étaient chez eux. Ils ont sans doute mieux vécu cette période que les nouveaux venus qui venaient de débarquer dans un pays qu'ils ne connaissent pas, qu'ils découvrent, où ils ne connaissent personne. Comment est-ce que l'université a soutenu ces étudiants-là ?
De plusieurs manières, en communiquant énormément. Donc nous avons communiqué à l'ensemble de la communauté très fréquemment. Ça inclut tous les étudiants. Il était important de créer un sens de communauté, un sens de la solidarité, quelqu'un qui est un peu dans la détresse puisse s'adresser à son voisin, à son professeur, à son recteur. Ça s'est fait de manière assez remarquable, et je voudrais vraiment rendre hommage à tous nos étudiants, parce que ça a été extrêmement difficile pour eux de passer la crise que nous avons vécue. Avoir 20 ans en 2020, ce n'était pas un cadeau. Mmh.
Bon, les étudiants n'étaient pas les seuls à souffrir. Apparemment, vous aussi, vous avez souffert du fait de ne pas pouvoir rentrer au Canada où vivent vos enfants. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez choisi de ne pas briguer un second mandat à la tête de l'université. Est-ce bien la seule raison ?
Ah oui, c'est bien la seule raison. Professionnellement, la vie est magnifique ici. Mon épouse et moi adorons le Luxembourg. Je pense que nous avons accompli pas mal de choses pendant les 4 années où nous avons été ici. Alors, ce n'est pas fini, hein. On n'est pas sur le point de partir. On partira
fin
décembre 22. Donc, il nous reste un peu plus d'un an et beaucoup de travail à faire. Mais oui, la pandémie a augmenté les distances avec nos enfants qui sont restés à Montréal. Nous en avons 3. Le plus jeune avait 17 ans quand nous sommes partis. Il en a aujourd'hui 21. Le plan était que mon épouse puisse traverser l'Atlantique au moins 4 fois par année pour aller les voir et les aider. Ça a pu se faire une seule fois. Et clairement, vivre cette pandémie à distance n'a pas été facile. Ça, c'est la partie.
Mais la pandémie aura une fin.
C'est vrai, la pandémie aura une fin, mais il était important que j'annonce ma décision tôt. C'est une des règles de notre université, qu'un recteur annonce à peu près un an et demi à l'avance s'il va ou non solliciter un deuxième mandat. Ça voulait dire m'engager pour 5 ans qui commenceraient dans un an et demi. C'est presque 7 ans d'engagement. Dans le contexte actuel, la seule vraie décision sereine que nous pouvions prendre, mon épouse et moi, c'est de nous limiter à un mandat.
Donc le choix de partir n'est pas lié à une déception quelconque?
Oh non, ouais. Oh non, je suis très très fier par rapport à tout ce qui a été fait ici.
Quand vous êtes venu à Luxembourg, vous êtes venu pour rester. Hein, dans une interview accordée au Vort en mars 2018, vous disiez « je n'ai pas traversé l'Atlantique pour ne rester que 5 ans ».
C'est vrai. Mais l'Atlantique a doublé de taille depuis lors.
Dans le même entretien, vous aviez dévoilé votre ambition de faire de l'Université du Luxembourg l'une des meilleures du monde. Est-ce que vous avez le sentiment de l'avoir rapproché du peloton de tête?
Ah oui, je pense que l'université aujourd'hui a vraiment une envergure mondiale. C'est une université extrêmement solide dans toutes ses dimensions, que ce soit la recherche, l'enseignement et le service à la société. Je trouve que l'Université du Luxembourg se classe parmi les grandes universités, celles que tout le monde regarde parce qu'elle est intéressante, elle est novatrice, elle ne ressemble pas au modèle traditionnel des universités, et elle a tout dans son ADN pour se distinguer dans l'avenir.
L'université aura donc un nouveau recteur à partir du 1er janvier 2023. Qu'est-ce qui restera de l'ère Pallage? Quelle est l'empreinte que vous laissez à Belval?
Écoutez, ça c'est un Belval et Luxembourg, devrais-je dire.
Ouais.
c'est une question qu'il faudrait peut-être poser à d'autres. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis profondément fier de ce que l'université est aujourd'hui. Je trouve que c'est une université qui est plus humaine, plus stratégique, qui est plus proche de la société également, plus solide au niveau administratif, au niveau financier. Et c'est une université d'envergure mondiale, plus humaine, si je peux commencer par là. C'est essentiel, l'humanité, dans une université. Une université, c'est fait de gens. Hein, c'est principalement, et que ce soit au niveau professoral, au niveau des étudiants, au niveau du personnel de soutien, je trouve que cette université a aujourd'hui un sens de la communauté extrêmement fort, ce qu'elle n'avait peut-être pas il y a quelques années. C'est une université aussi où nous nous sommes dotés d'une convention collective de travail. Ça faisait de nombreuses années que les employés souhaitaient une convention collective. En 2018, nous avons réglé ça et adopté une convention collective. Une autre chose qui, je crois, est très importante pour l'humanité dans notre université, c'est une politique d'égalité des genres, hein, qui est très importante parce que il y a des inégalités à gauche, à droite, qui sont très très visibles et que nous voulons corriger. Plus stratégique,
voilà, la stratégie, parlons-en un tout petit peu, parce que votre successeur, il héritera d'un plan stratégique qui le liera, hein, un plan stratégique à long terme qui a été défini et décidé. Quels en sont les axes principaux?
Alors, c'est un plan stratégique, effectivement, c'est une vision stratégique à long terme qui a été déterminée par l'ensemble de la communauté. Hein. Donc, ça a été un exercice très, très participatif. On le voit plutôt comme un cadre plutôt qu'une stratégie. Donc, il y a place à plein de sous-stratégies pour un recteur qui arrive en poste. Mais pour la première fois, l'université a décidé de ne pas privilégier des champs. Par exemple, on n'a pas décidé d'investir en économie ou en physique. Hein, l'idée est plutôt de privilégier la participation de l'université à la solution de grands défis contemporains. Alors, ces grands défis, ils sont au nombre de 3. Et vous allez voir que c'est des défis qui touchent à toute la société. La santé, d'une part, et la médecine. D'autre part, le développement durable et finalement, c'est quelque chose qui nous touche au quotidien, mais qui va faire évoluer aussi notre vie au jour le jour, c'est la transformation digitale.
Et donc, tous les domaines de l'université pourront participer aux travaux dans ces domaines précis.
Voilà, il est impossible d'approcher ces domaines d'une façon monodisciplinaire. Il faut privilégier l'interdisciplinarité, et ça, c'est une des grandes forces de notre université.
C'est une approche originale ?
C'est une approche très originale. Vous savez, on a été créé il n'y a pas très longtemps, hein, en 2003, et contrairement aux autres universités bien en place, il a été décidé à cette époque que l'université serait interdisciplinaire. Mmh. Et ça, c'est une valeur essentielle qu'il faut préserver.
Vous rentrez donc au Canada dans un peu plus d'un an. Vous allez retourner à l'Université du Québec ?
Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai plus d'attache professionnelle avec l'Université du Québec à Montréal. Mais c'est une université, bien sûr, que j'aime énormément. Mais aujourd'hui, on peut me considérer comme un homme libre.
D'accord. Merci beaucoup, M. Palache, pour cet entretien. Merci.